Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Maurice.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot. Au programme aujourd'hui, la semaine de 4 jours, on sera avec un patron qui y croit dur comme fer, Laurent de la Clergerie, à la tête du groupe LDLC. Vous nous posez aussi vos questions et on y répond dans 10 minutes avec notre avocat en droit du travail et avec vous Jeanne, bonjour.
Bonjour Erwan, aujourd'hui on répond à une question sur les heures supplémentaires. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr.
On va parler d'optimisme aussi au travail, vous êtes optimiste vous ?
Je suis très optimiste.
C'est vrai ça ?
Toujours.
Bon, très bien. Ça sera l'objet de notre focus. Pas toujours évident, mais pourtant important, particulièrement quand on fait du management. On en parlera avec nos invités qui vont nous donner quelques clés pour avoir le moral. Et puis en fin d'émission, on va pédaler avec Team Mobilité qui démocratise le vélo de fonction. Voilà le programme. Merci d'être avec nous. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, le DRH de la semaine.
On a beaucoup parlé de la semaine de 4 jours. Si on donnait la parole à un chef d'entreprise qui l'a mis en place, c'est ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui dans Happy Boulot. Bonjour Laurent de la Clergerie.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes président fondateur du groupe LDLC, vendeur de matériel informatique qu'on connaît bien sur BFM Business, notamment dans toutes nos émissions tech. Hein. Vous êtes aussi l'auteur du livre « Oser la semaine à 4 jours » et c'est aujourd'hui pour ça qu'on vous invite dans Happy Boulot. Alors 4 jours sur 32 heures plus exactement, c'est-à-dire une réorganisation complète du travail de vos employés qui sont plus de 1000 aujourd'hui.
C'est ça, c'est-à-dire qu'au moment où on met ça en place, effectivement, il faut revoir tous les plannings de l'intégralité de l'entreprise, puisque le but sur une entreprise comme la nôtre, c'est pas de fermer le vendredi, c'est d'avoir un service qui est le même qu'avant, soit 5 jours par semaine ou 6 jours par semaine, voire 7 dans des zones touristiques pour les boutiques.
Donc il y a quand même un gros travail RH derrière, ça se fait pas du jour au lendemain. Vous avez commencé ça en 2020-2021.
On a mis ça en place en janvier 2021 et on a abordé le sujet, enfin on a instauré la mesure en juin 2020 avec 6 mois de travail, alors il y a 2 mois d'été, pour, entre autres, parce que c'est la partie la plus lourde, revoir tous les plannings de toutes les équipes sur 4 jours, avec une contrainte qui était pour les équipes de dire le client ne doit pas se rendre compte qu'on travaille 4 jours.
Parce que ça peut ternir aussi l'image de l'entreprise. En tout cas, c'est une crainte que vous aviez au début de vous dire peut-être qu'on va plus vouloir travailler avec nous si on sait que...
Alors, j'avais une crainte sur le monde pro. C'est-à-dire que je m'étais dit, dans le monde pro, il y a peut-être des clients qui ne voudront plus travailler avec nous parce qu'on est au 4 jours. Et que ça casse un peu les codes du travail. Mais sinon, l'idée était surtout de dire le client ne doit pas pâtir de la mesure. C'est-à-dire que dans l'organisation de l'entreprise à la suite de cette mesure, on ne doit pas se rendre compte finalement qu'il y a eu une dégradation de service parce que tel ou tel service n'est plus capable de répondre, parce que les plannings ne sont pas bons. Ça ne doit strictement rien changer dans la vie du client.
Mais alors, est-ce que vous avez fait passer tout le monde en même temps à 4 jours ou ça s'est fait progressivement ?
Alors, on avait le groupe a plusieurs sociétés. Le siège, le groupe est principal et les 800 personnes sont passées aux 4 jours au 25 janvier et toutes les filiales sont passées aux 4 jours dans l'année qui a suivi. Dès qu'on a vu qu'on avait pu le mettre en place sur 800 personnes, on s'est dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'appliquer ailleurs.
Ça, finalement, le bilan que vous en faites aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que vous en êtes satisfait ? Vous n'êtes pas revenu en arrière, en tout cas ?
Alors, 3 ans plus tard, je dirais même que je regrette de ne pas avoir mis la mesure en place avant. Ouais. Mais je ne savais pas avant. Le bilan aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça ne fait que du bien aux équipes. C'est-à-dire que quand vous allez les voir, si vous passez chez nous, vous verrez que des gens heureux, qui se sentent bien, qui ont le sentiment d'avoir une vraie vie, c'est-à-dire un équilibre entre vie pro et vie perso. Et qui, au-delà de ça, de mon côté, si je le regarde du côté employeur, travaille plus et mieux qu'avant. C'est quelque part étonnant quand je dis ça, et certains économistes ont du mal à le comprendre. On travaille plus et mieux en 4 jours 32 heures qu'on ne travaillait avant en 5 jours 35 heures. Il y a une efficacité qui est beaucoup plus importante, beaucoup de choses qui ont progressé.
Mais on passe à 32 heures, c'est-à-dire qu'on gagne moins ?
Non, bien sûr, on a maintenu les salaires.
On gagne pareil en travaillant un jour de moins. Oui, donc c'est quand même un effort économique pour vous.
Sur le papier, oui. Et au moment où j'ai mis la mesure en place, vu qu'il manquait des heures, je m'étais dit ça va avoir un coût. J'avais estimé le coût à peu près à 5% de la masse salariale. Dans la réalité, non. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte que comme les gens travaillent plus, sont beaucoup plus efficaces, c'est-à-dire qu'ils vont au-delà de ce qu'ils faisaient avant. On parle même pas d'un équivalent travail. Ils en font plus. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que finalement, j'ai pas besoin de recruter avec des gens qui travaillent moins.
Donc, vous n'avez pas embauché avec cette mesure ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Et c'est d'ailleurs un débat que j'ai avec Pierre Laroutourou qui dit la mesure 4 jours 32 heures permettrait 10% d'emploi.
Ah ouais.
Non, je suis pas d'accord. Je pense que ça ne permet pas de recruter puisqu'on devient plus efficace.
Ah, mais c'est bien de regarder justement concrètement ce qui a été fait pour se rendre compte, parce que on peut dire des choses, voilà, on va créer de l'emploi, etc. On voit qu'avec vous, c'est pas le cas. En tout cas, ça augmente le bien-être des salariés. Ça vous le constatez. Ce sont des remontées qu'on vous fait.
C'est des remontées fortes et dans la recherche du toujours plus, que certains pourront dire, si tu leur donnes ça, il y a forcément autre chose après. Ben oui, je vois mes salariés tous les ans, et l'année d'après, après la première année, quand je les ai vus, ils m'ont dit, c'est quoi ta prochaine idée, Laurent? Et en fait, je leur avais répondu à l'époque, il n'y en aura pas là tout de suite, parce qu'il faut qu'on arrive à expliquer aux gens que ce qu'on a mis en place, c'est incroyable, ça fonctionne, et ça fonctionne au-delà de ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que c'est complètement contre-intuitif, c'est super productif, en fait, de travailler 4 jours, 32 heures. Et du coup, je ne peux pas faire autre chose pour vous, parce que avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord qu'on montre que ce qu'on a fait fonctionne. Et que d'autres le suivent parce qu'ils se rendent compte que finalement c'est un modèle qui fonctionne.
On parle aussi beaucoup, quand on évoque la semaine de 4 jours, là, ce que ça peut apporter en termes de meilleure répartition des tâches entre les hommes et les femmes, en gagnant un jour de plus à la maison. C'est vrai que c'est un vrai sujet de société. Est-ce que vous, chez LDLC, vous remarquez que ça va dans ce sens aussi avec cette mesure ?
Alors très clairement, les deux jours les plus pris, c'est vendredi et mercredi, à cause des enfants.
Le jour des enfants,
ouais. Et il y a beaucoup de pères qui ont pris le mercredi pour pouvoir garder les enfants. Donc oui, il y a un équilibre qui se recrée. Et dans l'autre sens, il y a un autre équilibre qui s'est créé, c'est qu'avant, on avait des 80%, essentiellement et très très majoritairement des femmes, qui étaient payées 80% de leur salaire et qui ont retrouvé un salaire temps plein grâce à cette mesure.
Ça peut se généraliser pour vous? On voit qu'il y a encore beaucoup d'hésitations. Hein. Les entreprises qui franchissent le pas, bon, elles sont de plus en plus nombreuses. Malgré tout, ça reste assez réduit. On est encore à un stade expérimental, on dirait. C'est que certains n'osent pas.
En fait, je pense qu'on a le spectre des 35 heures en tête et la réduction du temps de travail. Et le temps de travail est un sujet quelque part tabou en France. Et quand on dit on va encore plus loin, on se dit c'est de la folie.
Oui.
Clairement, c'est contre-intuitif en plus de dire en 4 jours, 32 heures, mes salariés en font plus qu'ils n'en faisaient avant en 5 jours, 35 heures. On peut dire dans ce cas-là, tes salariés en 5 jours, 35 heures, ils n'en foutaient pas une. Et non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on recrée un équilibre vie pro, vie perso qui fait que quand on vient au travail, grâce à ce temps qu'on a pu avoir dans sa vie perso, on n'a plus de problèmes perso dans la tête. Et comme on n'a plus de problèmes perso, on travaille beaucoup plus et beaucoup plus efficacement pendant les heures de présence.
Et vous pensez qu'il y a des secteurs, par exemple, dans lesquels on ne pourrait pas mettre en place cette mesure?
Je pense que ça s'applique dans plein d'endroits. Alors nous, on représente la logistique, on représente le retail, on représente les bureaux. Je sais que ça a été mis en place dans plein de boîtes dans le bâtiment. Je sais que des restaurants l'ont mis en place. Le seul secteur aujourd'hui où je vois un frein, c'est les secteurs qu'on vend à la journée. C'est-à-dire, je suis dans le conseil, une grosse boîte de conseil, je vends des journées hommes à des clients en face. Si je vends 4 jours au lieu de 5, il me manque une partie de mon chiffre d'affaires.
Donc là, on ne pourra pas forcément.
Pour moi, ça ne devrait pas être un frein puisqu'on travaille mieux en 4 jours qu'en 5, mais dire aux clients je vais augmenter les tarifs de 25%, ça va être compliqué.
Donc il faut aussi pouvoir regarder au cas par cas. Il nous reste un peu moins d'une minute, Laurent de la Clairjoy, pour mieux savoir quel manager vous êtes. C'est Marianne qui vous amène la boîte du DRH. Je vous invite tout de suite à piocher un papier, comme d'habitude, c'est l'exercice dans Happy Boulot, une phrase à compléter pour savoir un peu mieux quel DRH, mais pas seulement, patron aussi vous êtes. Je vous laisse nous la lire.
Alors, dans ma boîte, les afterworks, c'est souvent, parfois, c'est quoi? Alors pour l'histoire, il y a 7 ans, on a aménagé dans un nouveau siège. Et pour le coup, on est arrivé et le premier soir où on a aménagé, j'ai fait un grand discours aux salariés en leur disant « Et dorénavant, nous aurons un afterwork tous les jeudis. Okay. » Au moment même où je me suis dit cette phrase, je me suis dit « Mais comment tu vas réussir à réunir les salariés tous les jeudis ?» Et ça, c'est fait.
D'accord.
Ça s'est fait tous les jeudis. L'idée que j'avais en tête, d'ailleurs, c'était tout bête, hein, c'était French. J'aimais bien ce côté canapé après le travail où ils se retrouvaient tous. Et je voulais essayer de retrouver cette ambiance dans la boîte. Le Covid a détruit ça. La semaine de 4 jours, plus le télétravail a aussi un peu détruit ça. Aujourd'hui, on a un afterwork. D'ailleurs, j'y suis ce soir, tous les mois, qu'on maintient. Et donc, voilà, tous les mois, on maintient ce moment où la boîte se retrouve en mode hors du travail.
C'est une bonne régularité.
Et c'est une très bonne régularité.
Et tout le monde est là?
On va dire que 70% des salariés sont là.
Après, c'est pas obligatoire, quoi.
C'est absolument pas obligatoire, c'est gratuit. Par contre, c'est un vrai moment convivial. Et le côté hyper positif que ça apporte, c'est que c'est un moment où tous les services se croisent. Et il y a une culture d'entreprise qui se crée là-dedans.
Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Laurent de la Clairjoy. Merci d'avoir été notre invité, président fondateur du groupe LDLC. Tout de suite, on retrouve Jeanne pour appeler notre expert. Les questions d'auditeurs.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on joint tout de suite l'avocate Sabrina Gapteni, fondatrice d'Avocat Just, pour répondre à cette question. Sabrina, comment puis-je obtenir le paiement des heures supplémentaires que j'ai effectuées, mais qui ne m'ont pas été payées par mon employeur ?
Dans un premier temps, il faut vous assurer que le nombre d'heures dont vous sollicitez le paiement correspond à la réalité de ce que vous avez effectué. Pour cela, référez-vous au relevé de temps que vous avez reporté sur votre agenda ou tout autre support comme des échanges de mails. Une fois cela fait, dans un premier temps, je vous recommande de demander un entretien avec votre supérieur hiérarchique à ce sujet. Voyez quelle est sa position. Et si cette conversation n'aboutit à rien, formalisez votre demande par écrit, par l'envoi d'un courrier recommandé, avec accusé réception, en détaillant le nombre d'heures effectuées et les dates correspondant. Vous pouvez aussi solliciter un représentant du personnel et lui exposer la situation. Et en dernier recours, vous pouvez saisir le conseil de prud'homme pour faire valoir vos droits.
Merci Sabrina Gapteni, fondatrice d'Avocat Just. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le focus RH.
L'optimisme au travail, c'est le sujet de notre focus. Comment être positif quand ça ne va pas toujours comme on veut, comme on voudrait? Certains y arrivent plutôt bien, bah d'autres ont plus de mal. Si vous en faites partie, restez avec nous, on va vous donner quelques clés avec nos deux invités que j'accueille tout de suite. Jean-Luc Udry, bonjour.
Bonjour Erwan.
Merci d'être là, vous êtes auteur de l'optimisme opérationnel au travail. Bon bah c'était la personne qu'il fallait inviter aujourd'hui. Et face à vous, Yannick Mercieris. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Directeur bonjour. De The Daily Swy, le média qui fait évoluer la culture du travail. Vous analysez aussi tous ces sujets de votre côté, Yannick, de votre rédaction. D'abord, vous êtes comment, vous, tous les deux, au travail, plutôt optimiste ou pas? Comment vous vous définiriez, Jean-Luc?
Je crois que, d'abord, je suis un ancien pessimiste chronique.
Ah ouais.
Et c'est justement en rencontrant une adversité dans le cadre du sauvetage d'une entreprise que j'ai changé de cutie, j'ai viré ma cutie, et au contact de l'adversité, j'ai précisément appris à fonder un optimisme, et pas un optimisme bisounours, un optimisme opérationnel qui est fondé sur les faits et sur les résultats.
Donc vous avez tout remis à plat, vous avez dit ça suffit, j'en ai marre d'être bad mood.
C'est-à-dire que dans notre entreprise, quand je suis arrivé, bon, il est vrai que tous les experts disaient qu'elle ne passerait pas 6 mois de plus. Mmh. Et en arrivant justement au sein de l'entreprise, il faut convenir que ça sentait le sapin quand même. Et en effet, les pessimistes chroniques étaient vraiment là. Quand tout le monde vous dit que vous ne passerez pas 6 mois de plus, il y a de quoi être pessimiste.
On va voir, je vous coupe parce qu'on va, ça, on va en discuter voilà. Pendant 10 minutes.
Okay.
On va voir comment aussi les conseils que vous pouvez prodiguer à ces chefs d'entreprise notamment, ouais. Qui ont toutes les raisons d'être pessimistes, et pourtant on peut trouver de l'optimisme. Vous Yannick, optimiste ou pessimiste?
Moi je pense que je me suis rendu compte que j'étais optimiste.
Ah c'est bien
ça. En fait on ne s'en rend pas forcément compte. On se dit ah tiens je suis plutôt heureux, ou j'ai plutôt le smile, je fais plein de choses, etc. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que ce qu'on met en place, ou notre manière de travailler, on est résolument optimiste. Mais on verra qu'optimiste, ça ne veut pas dire non plus qu'on fait n'importe quoi. Au
c'est
contraire.
Plutôt bien de se rendre compte de ça.
Ouais, j'étais super content.
C'est une force. Parce qu'aujourd'hui, ça devient une compétence d'ailleurs.
Ouais, c'est ça en fait. J'avais une compétence depuis le début sans le savoir.
C'est quoi l'optimisme alors?
Il y a plusieurs définitions.
Ouais.
Il y en a une, j'ai regardé un petit peu, parce que quand vous m'avez dit, ouais, on va faire une émission sur l'optimisme, je vais me moquer, mais j'ai le réflexe de qu'est-ce que ça veut dire. Il y a une définition, c'est l'inclinaison à voir les choses du bon côté. Et celle-ci, je l'aime pas. Je l'aime pas parce que voir les choses du bon côté, ça veut dire qu'il y a potentiellement un mauvais côté, qu'on regarde pas, donc c'est pas très honnête. Et l'autre, que je trouvais plus intéressante, c'était la confiance dans l'issue favorable d'une situation. Et moi, je trouve que ça dit tout, parce que ça veut dire qu'on pense déjà solution. On se dit, tiens, j'ai confiance pour réaliser quelque chose. Et souvent, on oppose optimisme et difficulté. Non, en fait, ça peut être difficile, mais on peut être optimiste sur cette chose-là.
Mais ça veut dire avoir confiance en soi.
Alors, confiance en soi et confiance en les autres. Et c'est justement quand c'est difficile qu'un optimiste opérationnel, justement, arrive à convertir le stress en énergie et arrive à renverser en quelque sorte les situations. Et être optimiste ne veut pas dire, comme vous l'avez dit fort, fort justement, ne veut pas dire que tout est facile, que tout est simple, que tout tombe du ciel. Non, en aucun cas. Mais être optimiste, ça permet justement de se mettre dans les meilleures dispositions pour raisonner solution. Mais le raisonner solution, vraiment, concrètement, et trouver à changer les pratiques et les mentalités dans l'entreprise.
Jean-Luc Udry, je rappelle, vous êtes l'auteur de l'optimisme opérationnel au travail. Si je comprends bien, les bases de l'optimisme aussi, c'est savoir, un, dédramatiser, relativiser, deux, être patient. On n'est pas optimiste en disant, allez, c'est bon, ça, c'est pas du court terme. C'est là, ça ne va pas, peut-être en ce moment, mais... Qu'est-ce qui va se passer dans 5, 6 semaines, 6 mois? Peut-être que là, ça ira mieux.
En effet, mais d'ailleurs, la première base de l'optimisme, c'est de considérer que vous n'êtes pas responsable de ce que la vie vous a donné, mais que vous êtes responsable de vous, de ce que vous donnez à la vie. Et que donc, dans ce contexte-là, rien ni personne ne peut vous empêcher de donner le meilleur. Ça veut dire que, bien sûr, il y a des circonstances extérieures, bien sûr, il peut arriver un coup de Trafalgar à tout le monde, mais la façon dont vous regardez cet événement ou cette déconvenue, bien, va déterminer l'issue du sujet. Et c'est donc vous qui avez une maîtrise des événements à condition d'avoir mis les bons ingrédients dans la tête.
Bon, vous nous dites plein de trucs dans votre livre, hein. Vous donnez plein de clés, en réalité, pour être optimiste.
Ça me rassure.
Il va falloir acheter le livre parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire, mais on va en prendre quelques-unes. Se forger un mental, c'est ce que vous nous dites. D'abord, on ne naît pas optimiste, on le devient, c'est ça?
Je le crois, en tout cas, c'est mon expérience. Se forger un mental, c'est essentiel. Vous pouvez avoir dans une entreprise le marketing, la finance, le design, tous les services du monde. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas le mental? Qu'est-ce qui se passe face aux transformations actuelles et sur les transformations sociétales qui sont gigantesques si vous n'avez pas avant tout un mental? Le mental, c'est la mère des batailles.
Mais le mental, j'ai envie de dire, il se gagne aussi par la confiance.
Oui.
Et on en parlait juste avant, enfin, je trahis un secret, mais on se disait, en fait, l'optimisme, c'est le droit à l'erreur. Alors ça paraît un peu paradoxal. Pourquoi? Parce que avoir le droit de se tromper, déjà, avoir le droit, ça ne veut pas forcément dire qu'on va se tromper, mais avoir le droit de se tromper, ça fait nous faire baigner dans une espèce de climat de confiance. Et quand on a confiance...
C'est s'autoriser à se tromper.
Exactement, s'autoriser à se tromper, à ce que les autres se trompent. Si on est manager ou si on est manager, bah, on a forcément... En fait, on a besoin de ce filet de sécurité, mais quand on voit des... Je sais pas, au cirque ou n'importe où, il y a des filets de sécurité, mais ce n'est pas pour autant que les gens tombent. Et donc ça, c'est ça qui est important. Et quand on a confiance, on développe beaucoup plus d'autres compétences, de la créativité, de l'autonomie, de la détermination, de la motivation. Et tout ça, ce sont des valeurs. On le dit aujourd'hui, ces fameuses soft skills, ça a énormément de valeurs. Il faut chérir ces valeurs-là.
Et ce, Jean-Luc. Et ce thème me touche d'autant plus que chez nous, comme la situation était mauvaise, plus personne ne bougeait une oreille, de peur justement de faire des erreurs ou d'aggraver une erreur existante ou d'en commettre d'irrémédiables. Et on a décidé de prendre le taureau par les cornes et de libérer les énergies, de libérer la parole en autorisant chacun à faire des erreurs, à les analyser et ensuite à en tirer les conséquences, en faisant bien une distinction entre une erreur et une faute. Ce sont deux choses différentes. Et quand on a libéré cette énergie-là, bien évidemment, le moral s'en est ressenti et la performance aussi.
On a parlé de l'expérience de Jean-Luc Udry. Yannick Mercieris, vous aussi, vous êtes un patron, de certaine manière. Vous avez créé, enfin, vous êtes à la tête de votre média, bah oui.
Un directeur édito,
Optimiste, optimiste. Dans l'âme, c'est aussi ce qui vous a permis d'en arriver là, de créer quelque chose. Enfin, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre expérience personnelle?
Il y a une vision de se dire que, The Daily Soil, l'idée, c'est de transformer le monde du travail. Quand on me dit transformer le monde du travail, c'est ultra ambitieux. Mais transformer le monde du travail, c'est expliquer plein de choses. Et surtout d'une certaine façon. C'est-à-dire montrer ce qui va bien, ça c'est facile. On va dire, c'est trop facile. Et quand ça va, et montrer les choses qui vont moins bien. Montrer quelque chose qui va moins bien, on pourrait juste se plaindre, dire regardez ce qui ne va pas. Non, en fait, il faut se dire regardez ce qui ne va pas. Et se poser des questions. Si on n'a pas les solutions, c'est se poser des questions. Et c'est ce qu'on disait aussi un petit peu avant d'arriver en coulisses, c'était. En fait, commencer à parler de quelque chose, c'est déjà le solutionner. Et pour ça, il faut le faire d'une certaine façon. Je ne sais pas, Erwan, vous êtes mon manager. Si je fais un mauvais article et vous me dites, Yannick, c'est nul. Ok, super, mais qu'est-ce que je fais de ça? Votre ambition, c'est quoi? Voilà, votre ambition, c'est quoi? C'est que je reste nul ou que non, en fait, c'est que je fasse de bons articles.
Bien sûr.
Donc, en fait, la façon de le faire, via l'optimisme. L'optimisme, encore une fois, on n'est pas des guignols quand on est optimiste. C'est une façon positive de voir les choses.
Justement, pour les managers, l'optimisme, c'est quelque chose de très important. Il faut être optimiste quand on fait de l'encadrement. Il faut réussir à se faire apprécier, se faire aimer. Ça va avec.
Alors, un manager n'est pas une nounou.
Non.
D'accord. Les salariés ne sont pas des enfants. Être manager, c'est savoir donner aux autres la possibilité de régler leurs problèmes eux-mêmes. Le manager n'est pas là pour régler les problèmes de l'équipe, mais pour faire en sorte que l'équipe règle ses propres problèmes. Et ça, je crois que c'est très important de le comprendre. Quant à l'optimisme et le management, un manager stressé va transmettre son stress. Il faut qu'il comprenne ça. Or, les managers sont souvent stressés parce qu'ils sont pris en sandwich entre des intérêts.
C'est toute la difficulté.
C'est toute la difficulté. C'est pour ça qu'il faut rendre hommage aux managers. Et tous ceux que je rencontre chaque semaine sont des gens qui mouillent le maillot. Ce sont des gens qui sont proches de leurs équipes. Il n'y a pas que des managers toxiques. Il y a aussi des bons managers. Et je voudrais quand même le dire au passage.
Et ce que vous dites sur les managers, on peut remplacer le mot manager par RH. Et on a exactement les mêmes choses.
Ouais.
Exactement, parce qu'ils sont à la croisée des chemins d'énormément de décisions, parfois difficiles à prendre. Et surtout, qu'on a oublié de dire, mais l'optimisme, c'est bien, ça coûte zéro. Et ça, je pense que
et ça rapporte
manager,
beaucoup.
Et ça rapporte beaucoup.
Et ça rapporte
zéro d'être
optimiste. Ça rapporte tout, de la motivation, de l'engagement. Ouais. À un moment où 7% des salariés sont engagés dans l'entreprise, 7%, enfin c'est hallucinant. Faire preuve d'optimisme, ce n'est pas du tout convoquer les bisounours. C'est faire preuve d'une, c'est avoir une vraie compétence qui produit des résultats en termes de motivation et en termes économiques aussi.
Être entouré, soutenu aussi pour être optimiste, parce que sinon, des fois, on a du mal à avoir la lumière.
Si vous êtes optimiste, vous rayonnez. Ouais. Parce que si vous êtes pessimiste, vous rayonnez aussi.
Mais pas dans le bon sens.
Pas dans le bon sens.
Mais ça doit venir justement de toute l'entreprise aussi. C'est une façon de voir les choses, c'est une façon de communiquer, c'est une façon d'être plus ou moins transparent et de faire passer des messages. Et quand parfois on arrive dans une entreprise où, moi ça m'est arrivé, je suis arrivé dans une entreprise où il y avait cet optimisme, cette bienveillance, bah au tout départ on est un peu surpris, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait on retourne la carte, on se dit mais en fait non, je ne devrais pas me méfier de ces moments positifs ou optimistes.
Exactement, et c'est d'ailleurs quand je vois dans les conférences, je vois les valeurs des entreprises qui sont en train de changer, de plus en plus d'entreprises sont en train d'inscrire l'optimisme au rang de leurs valeurs. Et ouais. Ça, c'est bon signe.
Vous nous avez dit plein de trucs super qui vont nous rendre optimistes. Je voudrais juste conclure avec un chiffre. Malheureusement, mais c'est une espèce de d'état des lieux quand même. C'est un chiffre que vous nous apportez, Yannick, chez Psychodon. 6 salariés sur 10 ont un état d'esprit positif en arrivant au travail. Bon, on peut se dire, c'est plutôt pas mal, mais il y a encore du travail. Il y en a encore 4 sur 10.
Voilà, c'est ça. C'est comment on est. On est optimiste,
alors, on est optimiste ou pessimiste, toi.
6 sur 10, ok, ont un état d'esprit positif. Ouais. Mais il y a un autre chiffre aussi, c'est entre, on va dire, à peu près 7 salariés sur 10 sont satisfaits de leur travail.
Ouais.
C'est beaucoup. Ça veut dire, mais qu'est-ce qu'on fait ? Ça veut dire que on arrête d'en parler ? Non, en fait, ça se chérit. Tout ça, en fait, c'est pas acquis. Tout ça, c'est pas acquis. Donc, faut continuer. C'est-à-dire que ça
va. Travail.
Et peut-être, on se dit, bah, essayons de tirer ce. Puis c'est un peu moins cool parce que on n'a pas tous des métiers super simples. On n'a pas tous des métiers super cool. Ça, faut le dire. Nous, on est en plateau, c'est très sympa ici. Mais il y a des gens qui ont des métiers très difficiles dans des conditions complexes.
Le mot de la fin.
Le mot de la fin, c'est que sur les 6 salariés sur 10, l'optimiste se dit, chouette, il y en a encore 4 à convertir.
Voilà. Eh ben, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Luc Ludry, auteur de l'optimisme opérationnel au travail chez Duno. Et Yannick Mercier, directeur de The Daily Swile. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche.
Merci beaucoup. Merci.
Happy Boulot, carte blanche.
Alors on va un petit peu continuer dans ce qu'on était en train de dire justement avec Stéphane Moriou. Stéphane, vous nous aidez cette semaine à conjuguer exigence avec bienveillance.
Dans nos rapports à autrui, pouvons-nous être simultanément exigeants et bienveillants ? La question mérite d'être posée tant les concepts semblent être au départ opposés. Prenons l'exemple d'un manager. S'il est trop exigeant et insuffisamment bienveillant envers ses équipes, il sera sûrement convoqué par son DRH et ses partenaires sociaux. Inversement, s'il est trop bienveillant et insuffisamment exigeant, il sera certainement convoqué par son DRH et sa DG. Vous noterez au passage le rôle central du DRH dans les deux situations. Exigence et bienveillance peuvent et doivent se conjuguer. Comment ? En se rappelant simplement qu'elles ne portent pas sur le même sujet. Nous devons être exigeants avec les résultats et bienveillants avec les personnes. Exigeants avec ce que les gens font et bienveillants avec ce que les gens sont. Et ne vous y trompez pas, s'il y a maltraitance dans l'excès d'exigence, il y a aussi maltraitance dans l'excès de bienveillance. Nous sommes donc condamnés à les équilibrer.
Happy Boulot, le labo RH.
Et Jeanne est de retour en 4 minutes. Jeanne, aujourd'hui avec notre invité qui propose des vélos de fonction.
Oui, aujourd'hui nous sommes avec Jérôme Blanc. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bienvenue.
Vous êtes cofondateur de Team Mobilité, une entreprise qui s'est fait connaître en installant des équipements sportifs dans les bureaux et en mettant en place des flottes de vélos pour les collaborateurs. Aujourd'hui, votre but c'est de démocratiser le vélo de fonction et vous équipez plus de 120 entreprises, Jérôme.
Exactement. Aujourd'hui, on est actif sur la totalité du territoire national pour toute typologie d'entreprise, aussi bien dans les grandes villes que dans les agglomérations.
Vous équipez du coup 120 entreprises. C'est quel genre d'entreprise que vous équipez ?
Alors, c'est plutôt des entreprises où on a une capacité de pouvoir faire ses trajets domicile-travail à vélo. Donc, c'est des distances qui vont aller autour d'une dizaine de kilomètres. Donc, on va avoir aussi bien des entreprises avec des cadres supérieurs ou des ouvriers. On équipe également des entreprises dans des zones un peu plus reculées, périurbaines, notamment dans des régions comme Dijon, dans l'Ain, à Oyonnax. Voilà, donc c'est vraiment toute typologie d'entreprises peuvent être éligibles au vélo.
Donc, vous vous occupez aussi de la logistique, de la maintenance. Comment c'est clé en main ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est une location longue durée avec plein de services. Elle est sur 36 mois et les services que vous allez retrouver sont l'assurance, parce que effectivement, on a toujours peur de se faire voler le vélo, de l'entretien. Donc, les vélos sont révisés régulièrement directement sur lieu de travail du collaborateur pour éviter de lui faire perdre du temps. Et on va également s'occuper de lui fournir un casque et un cadenas pour tout ce qui est la sécurisation.
Du coup, pourquoi vous avez choisi le vélo et pas le scooter ou la trottinette qui sont très en vogue aujourd'hui ?
Alors effectivement, tout est en vogue, mais ça reste quand même de la mobilité urbaine classique. Nous, ce qu'on voulait, c'est offrir de la mobilité douce, proposer une alternative au transport en commun à la voiture, quelque chose qui est recherché par cette nouvelle génération des millennials qui utilisent des vélos aujourd'hui en free-floating essentiellement et qui aimeraient bien avoir un vélo à leur disposition, être propriétaire alors que ça coûte cher. Et nous, on va être capable de leur proposer d'avoir un vélo sur des mensualités assez faibles.
Et il faut que l'entreprise dispose de garages, de local pour pouvoir stationner tous ces vélos, si elle signe un contrat avec vous ?
Exactement, le contrat est signé avec l'entreprise, mais le vélo est attribué de manière individuelle au collaborateur, donc il peut le garer dans un parking qui est mis à disposition par l'entreprise, mais s'il n'y a pas de parking, il peut rester dans la rue. Comme je vous l'ai dit, il y a une assurance vol qui permettra de couvrir le vélo s'il est volé.
Et donc aujourd'hui, votre but, c'est de démocratiser du coup le vélo de fonction, surtout en vue des Jeux Olympiques, pour désengorger.
Oui, ça approche.
Pour désengorger du coup les transports en commun. Comment vous voulez démocratiser ça d'ici les JO ?
Alors effectivement, les JO sont une bonne opportunité pour lancer des entreprises sur le vélo, parce que les rues de la capitale vont être forcément assez bouchées. Les transports en commun risquent d'être saturés. 15 millions de visiteurs qui sont attendus dans la capitale. Et il faut trouver une alternative pour faire venir les collaborateurs. Et le vélo est la bonne alternative, parce que encore le ministre des Transports en a parlé cette semaine. Il faut venir à vélo pour se déplacer à Paris. Donc le
on
vélo.
On espère qu'on pourra se déplacer en vélo aussi pendant les JO. Parce
on
que
espère,
c'est
mais
pas
en
sûr.
Tout cas, on croise les doigts pour que ça soit faisable. Et on va être capable de mettre des vélos à disposition avec tous les services pendant cette période de 4 à 6 mois.
Et juste d'un mot pour conclure, mais comment vous agissez face aux entreprises qui maintenant aussi proposent des aides, des chèques à l'achat pour les employés qui veulent investir dans un vélo électrique? Ça vient concurrencer directement votre business ou pas? Alors,
ça vient concurrencer, mais ça ne vient pas le remplacer, parce que les mises à disposition de ces chèques sont des montants assez faibles. On parle notamment du forfait de mobilité durable, on est limité à 700 euros. À 700 euros par an, on ne peut pas acheter un vélo et l'assistance électrique de qualité. Et donc, le vélo de fonction est le meilleur moyen d'y arriver avec un service complet intégré.
Merci beaucoup, Jérôme Blanc, d'être venu nous parler tout ça dans Happy Boulot, cofondateur de Team Mobilité. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, Jeanne. On se retrouve la semaine prochaine. Pour retrouver cette émission en replay, en podcast, abonnez-vous pour recevoir tous les nouveaux épisodes, être les premiers à pouvoir les regarder, les écouter. Merci à Flo et Alban qui étaient en régie. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, soyez heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290 euros par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000 euros suivi de 36 loyers de 290 euros réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.